Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec la Voix des Arts, nous allons essayer de sortir de Suède pour voir ailleurs ce qui s'y passe du côté des pionnières créatrices au cinéma. Bon, c'est toujours en pays nordique. La dernière émission, je vous ai présenté des écrivaines comme Ulla Isaacson, Mashken Kullborg, Eva Dahlbeck, même une journaliste, Barbro Alving. Et ce sont des femmes qui se sont servies de leur plume pour la mettre au service du cinéma. Et je vous ai présenté Ulla Rigg, monteuse, scénariste et réalisatrice, ainsi que Mais Etterling, qui en plus d'être scénariste et réalisatrice, fut productrice. Alors d'autres de ces femmes auraient pu être encore nommées, hein. Je sais qu'il y en a d'autres que je n'ai pas trouvées, mais déjà celle-ci, née fin 19e siècle, début 20e, nous confirme qu'elles ont largement contribué au développement de l'industrie cinématographique. Et que diriez-vous d'un petit crochet par la Finlande, histoire d'aller voir un peu quel est ce pays nordique, en sandwich entre la Suède et la Russie, et bordé par la mer Baltique. Alors inutile de vous dire que le climat hivernal est bien froid, que la capitale est Helsinki, située bien au sud du pays en bordure du golfe de Finlande, faisant face à l'Estonie. Voilà pour la localisation géographique. Or, c'est un pays qui a été tiraillé entre les diverses puissances qui l'abordent. Évidemment, les événements de l'année 2022 sont certainement inquiétants pour les Finlandais qui sont voisins de la Russie. Et en ce qui concerne la langue, si celle-ci est le finnois, j'ai lu qu'un pourcentage assez important, presque 50% de Finlandais, pouvaient s'exprimer en suédois et également en anglais dans une proportion encore plus importante. Et comme la Finlande fut une province russe, les Finlandais, et donc aussi des descendants de Russes ou de Slaves, installés sur place, parlent à la fois le finnois et le russe, sans compter les dialectes, autres langues, langue dite Sam, que l'on trouve en Laponie, qui est une région située à cheval sur les territoires norvégiens, suédois, finlandais et russes. Or, parlons quand même un peu du système éducatif qui m'a interpellée quand j'ai fait mes recherches. Bon, je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment un pays permet à l'enfant de devenir le citoyen de demain. Eh bien, il paraît que le système éducatif des Finlandais serait l'un des plus efficaces pour l'enseignement des matières fondamentales qui sont la science, les langues et les mathématiques. Et en ce qui concerne l'organisation générale, la scolarité obligatoire qui est gratuite dure 9 ans et les enfants rentrent véritablement à l'école à l'âge de 7 ans. Alors, ils étudient le matin les matières obligatoires et l'après-midi, à partir de 14h, est consacré aux activités sportives et artistiques. Et selon les enquêtes, la Finlande arrive en tête pour les mathématiques, les sciences et la maîtrise de la lecture. Et on attribue cette réussite à un système basé sur l'autodiscipline et non pas la répression. Alors les professeurs aussi sont responsabilisés, ils gardent une marge de manœuvre dans leur organisation et diffusion de leur matière. Ils sont également présents pour bien encadrer, accompagner leurs élèves et n'hésitent pas à faire appel à des collègues en cas de difficulté. Et j'ai aussi lu que la décentralisation permettait aux directeurs et aux professeurs plus de liberté et d'autonomie pour s'adapter à la situation spécifique de leur établissement. Alors à part l'éducation, que dire d'autre ? Eh bien, qu'il y a beaucoup de reines en Finlande et que c'est plutôt une bonne introduction pour que dans la Voix des Arts, je vous présente la réalisatrice finlandaise qui arrive, car elle eut la réputation, elle avec son mari, de réaliser des films sur les traditions finlandaises. Et notamment l'un d'eux où le renne eut un rôle particulier. Et ce film eut d'ailleurs beaucoup de succès. Il a même remporté le Grand Prix international des films légendaires au Festival de Cannes en 1953. Et il s'agit d'un long métrage réalisé en 52 intitulé « Le renne blanc ». Alors nous sommes tout de suite transportés dans un paysage enneigé et sauvage, sans doute en Laponie finlandaise. Ce film a des allures de conte, de légende. Et en effet, et pour vous relater l'intrigue, une jeune femme épouse un éleveur de rennes et se sentant délaissée par ses absences et parce qu'elle en souffre, va voir le chaman local qui lui révèle sa véritable nature, qui est celle d'une sorcière. Et c'est après un rituel où elle a une étrange sensation qu'elle obtient la capacité de se transformer en reine. Et c'est ainsi qu'elle attire les chasseurs, mais pour leur malheur, puisqu'une fois près d'elle, elle reprend forme humaine, mais c'est pour se révéler en vampire. Or, c'est un film qui, paraît-il, finit mal. Bon, d'accord. Ce film serait à l'origine de ce genre cinématographique intitulé Folk Horror, que l'on peut traduire par horreur folklorique, dans le sens où le folklore est ici utilisé dans le but d'en faire un conte horrifique. Mais nous verrons cela après un peu de musique et justement nous allons nous glisser dans cette ambiance particulière, étrange, puisque la musique que je vous propose est celle qui illustre ce film et elle a été composée par un suédois nommé Einar Englund. Après cette musique envoûtante, revenons à nos pionnières, puisque ce film réalisé par Erik Glomberg est l'occasion de vous présenter son épouse, également l'actrice principale, de surcroît scénariste et assistante réalisatrice de son mari, je nomme Mirjami Kuosmanen, qui est née en 1915 et entre autres activités, fut également assistante monteuse et maquilleuse. Alors celle-ci est née dans une famille relativement aisée où sont nés 10 enfants, mais où seulement 6 survécurent, et où la petite Mirjami se révèle comme une enfant vive et espiègle qui se comporte aussi comme un garçon manqué et fait beaucoup de sport. Et apparemment, ces traits de caractère vont perdurer dans le temps et se révéleront utiles aussi devant et derrière l'écran. Alors elle décide de devenir comédienne de théâtre et entreprend des études pour cela. Et c'est là qu'elle est remarquée pour un second rôle au cinéma dans un mélodrame finlandais du réalisateur Teuvo Tulio, daté de 1938, intitulée « La chanson de la fleur écarlate ». Et elle a 23 ans. Alors un an plus tard, on lui propose le rôle principal dans un film dramatique, une adaptation à l'écran d'un roman d'un auteur nommé Franz-Emil Silampa, film intitulé « La foi d'un seul homme », qui raconte la descente en enfer d'infirmier. Alors, ce film est réalisé par un réalisateur finlandais nommé Nirki Tapiovaara. Et c'est là qu'elle rencontre son mari, le producteur et directeur de la photographie du film, nommé Erik Glomberg, qu'elle épouse en 1939, juste avant que n'éclate la guerre entre la Finlande et l'Union soviétique. Alors, avec la guerre, la réalisation du film va être perturbée, en s'étant troublée, par la disparition du réalisateur et aussi d'un acteur, ce qui forcera le couple à prendre les commandes pour pouvoir terminer le film, ce qui les a obligés certainement à endosser des fonctions dont ils n'étaient pas forcément préparés au départ. Donc il a fallu qu'ils s'adaptent et apparemment ça a marché, si bien que tous deux vont continuer dans cette voie. Et c'est ainsi que Mirjami Kuosmanen travaillera en étroite collaboration avec son mari et tournera dans 12 films de 1940 à 1948, ce qui ne l'a pas empêché quand même de mettre au monde 4 enfants. Alors faire un film où la Laponie est mise à l'honneur est un projet qui leur tient à cœur, et aussi après un premier film en 1951 intitulé Arctic Fury, ils vont s'attaquer en 1952 à la réalisation du Renne Blanc. Et l'idée serait venue de Mirjami Kuosmanen suite à un rêve qu'elle aurait fait d'une femme qui se transforme en reine. Enfin, quoi qu'il en soit, Mirjami s'investit à fond, que ce soit dans l'élaboration du scénario ou du rôle qu'elle tient à l'écran. Et le couple est récompensé avec un film qui remportera un franc succès et également des prix. Alors Mirjami Kuosmanen est décrite comme une collaboratrice investie et efficace auprès de son mari, et une critique élogieuse présente même le couple comme celui qui a permis de faire connaître au public la littérature classique finlandaise grâce au cinéma. Ils se sont évertués à adapter, par exemple, les 10 nouvelles d'un auteur nommé Maria Jotuni, intitulée « Quand il y a des sentiments », réalisé en 1954, et d'autres encore, et même une nouvelle naturaliste du français Émile Zola, écrite en 1892, intitulée « L'attaque du moulin », qui se déroule pendant la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871. Or, c'est une belle réussite artistique pour tous les deux, mais qui ne durera pas, puisque malheureusement, le drame éclate. Et en effet, Mirjami Kuosmanen décède suite à un malaise après avoir fait du sport, de la natation, et possiblement ce serait dû à une hémorragie cérébrale. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et elle décédera évidemment bien jeune, puisqu'elle n'a que 48 ans, en 1963, mais en laissant néanmoins, et apparemment, l'image d'une femme pétillante qui a su être créative autant sous la lumière des caméras que derrière, dans l'ombre des studios. Alors j'ai envie de vous faire écouter maintenant un chant traditionnel sami qui nous maintient dans l'ambiance propre à cette région qu'est la Laponie et donc à celle du film du Renne Blanc. L'interprète est une Finlandaise d'origine sami nommée Marie Buan-Persen, dont je suis sûre que cette voix interprétant ce très beau chant va vous charmer. Ce très beau chant qui nous dépayse pour notre plus grand plaisir. Bon, je vous ai parlé de Mirjami Kuosmanen, mais savez-vous qu'une des premières réalisatrices, sinon la première, est née 48 ans plus tôt en 1867 et elle se nommait Jenny Tchernichin Larson et qu'elle était également comédienne et scénariste. Or, celle-ci avait des origines russes et de nationalité finlandaise. Elle émigre par la suite en Suède. Alors, elle a d'abord démarré des études de comédienne de théâtre en 1885 à Helsinki, au théâtre nommé Théâtre suédois. Entre-temps, elle épouse un comédien et réalisateur suédois nommé William Larsson, et c'est là qu'il s'installe en Suède. Elle y a donc débuté comme comédienne, mais avec une spécialité cependant, malgré un âge pas si avancé que cela, car elle n'avait même pas atteint les 50 ans, plutôt dans les 40-45 ans, elle jouait déjà les femmes mûres, voire âgées. Bon, sinon, elle a également dirigé une école de cinéma et fut réalisatrice pour les futurs acteurs. Et à son actif et en tant que comédienne, elle a joué dans une cinquantaine de films et elle décédera avant la guerre de 1937. En 1937. Alors vous voyez qu'en Finlande aussi, même si elles sont moins nombreuses qu'en Suède, ces créatrices au cinéma n'ont pas chômé et étaient présentes dès l'origine du cinéma. Alors une de ces Finlandaises, née fin 19e siècle, qui a participé à l'écriture de scénarios, se nomme Alma Söderholm. Bon, j'espère que je prononce bien quand même, parce que c'est des noms compliqués pour moi. Elle est née en 1870, c'était une historienne de formation. Après des études d'histoire, elle a d'ailleurs préparé une thèse de doctorat qui concerne la France, hein, d'ailleurs, puisque l'intitulé en était « Le régime de la presse pendant la Révolution française ». Et figurez-vous que cette personne fut la première femme professeure en Finlande et également maître de conférences. Alors, il est dit également qu'en tant qu'historienne, elle a collaboré à l'édition de la correspondance de Marie-Antoinette, la reine de France, épouse de Louis XVI, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, avec le gentilhomme suédois Axel de Fersen, sur qui, de nombreuses questions se sont posées pour savoir s'ils étaient ou non amants. En tout cas, ils s'étaient liés d'amitié et le courrier dont j'ai eu connaissance grâce à une émission télévisée sur cette relation montrait une affection sincère. Et même Axel de Fersen s'était décarcassé pour aider la famille royale à ne pas tomber entre les mains des révolutionnaires. Bon, voilà pour la petite histoire de France, au passage, qui n'est pas le sujet du jour, mais c'est toujours intéressant aussi de comprendre sur quoi notre historienne pouvait travailler. Et de plus, Alma Söderholm fut également journaliste et écrivaine de romans et de poésie. Et elle participe aussi, en tant que scénariste, à un film muet suédois de 1923, réalisé par Maurice Stiller, est tiré d'un roman de Selma Lagerlöf, dont j'ai déjà parlé à La Voix des Arts. Et si vous vous souvenez, Selma Lagerlöf était écrivaine et fut la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Alors, et pour en revenir au film, celui-ci s'intitule Le Vieux Manoir, qui est classé dans les films d'aventure, où il est question d'un jeune homme qui tente de sauver le manoir familial en reprenant un élevage de rennes en Laponie. Et nous allons terminer notre voyage en Finlande et l'émission de La Voix des Arts avec notre dernière Finlandaise nommée Brita Vred, née en 1894 et qui fut journaliste et cinéaste puisqu'elle a réalisé des documentaires sur la Finlande pendant la guerre 40. Mais elle n'a produit qu'un seul long métrage de 38 minutes intitulé « Je suis un bûcheron » qui est aussi lié à la guerre et qui fut projeté au Festival de Cannes en 1949. Et il est dit que ce fut le premier film finlandais projeté au Festival de Cannes. Alors j'ai lu qu'elle aurait produit ses documentaires à des fins caritatives pour venir justement en aide à ces victimes de la guerre et notamment aux populations originaires de lieux comme la Laponie et dont les terres étaient tombées entre les mains des Russes, ou bien lorsque les Allemands ont détruit le pays en brûlant une partie de la Laponie finlandaise. Donc, c'est l'histoire de ces malheureux réfugiés qui ont été accueillis par les voisins suédois. Et elle aurait réalisé 3 films sur ces sujets, et l'un d'eux, le troisième, intitulé « La tragédie de Tornedalen », est considéré comme un document de témoignage unique. Or, sa période la plus féconde fut entre 1935 et 1944. Elle a d'ailleurs collaboré avec un photographe professionnel nommé Eino Mäkinen, réputé pour se spécialiser sur les films ethnographiques. Ils ont reçu d'ailleurs tous deux un prix pour l'un des films considérés comme un témoignage vivant de ce qu'ont pu endurer les populations. Apparemment, elle était quelqu'un doté d'une conscience sociale, d'empathie envers ses semblables en souffrance. Alors il faut dire qu'elle a grandi dans un milieu où les esprits étaient à la fois ouverts et tournés vers les autres, du moins c'est ce que j'ai lu. Le père s'engageait déjà dans des causes sociales. De plus, la culture tenait une place non négligeable. Son père lui-même était un érudit qui pouvait s'exprimer dans plusieurs langues. Quant à l'art, la littérature, la musique, c'était des matières familières pour Brita. Entre autres travaux, elle écrivait également romans et témoignages. Et elle a réalisé encore un documentaire en 1961, surtout pour valoriser la Finlande. Bon, c'était en quelque sorte un film promotionnel. Et ce qui lui tenait à cœur, apparemment, c'était aussi de diffuser ses films à un public étranger, sortir des frontières pour témoigner de ce qui s'était passé. Mais apparemment, la réalité ne fut pas à la hauteur de ses ambitions. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un bon moment instructif avant de nous retrouver dans une nouvelle émission de La Voix des Arts, encore consacrée aux créatrices, pionnières au cinéma. En attendant, je vous remercie de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.